nous sommes, j'ai envie de dire, choqués d'un point de vue du droit de l'homme et d'un point de vue de la constitutionnalité de la peine de mort également. Nous allons dire que nous sommes choqués et je pense qu'il est temps que la Cour suprême revisite la constitutionnalité de la peine de mort. Nous pensons que cela est immoral et inhumain. On peut condamner des gens à vie sans sursis, quitte à ce qu'ils meurent dans les prisons. Mais lorsque vous condamnez quelqu'un pour la peine de mort et que chaque jour, il se dit « demain c'est mon dernier jour, alors aujourd'hui serai mon dernier jour », c'est plus que de la torture.
Alors, l'application de la peine de mort au niveau fédéral n'était plus possible depuis 2003, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que cela implique, sachant qu'une trentaine d'États la pratiquent encore aux États-Unis?
Ce qui est vrai, parce qu'en fonction des crimes, chaque État décide de comment gérer ses droits. En fonction des crimes, il y a des États où la peine de mort est complètement illégale, cela ne se fait plus. Au niveau fédéral, ce n'est pas que c'était illégal, c'est simplement qu'il y avait eu sursis sur exécution depuis près de 17 ans, depuis près de pratiquement 2003. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des contentieux qui existent sur la manière par laquelle l'exécution doit être faite parce qu'on estime que certains médicaments ou bien certaines injections qui étaient faites torturaient beaucoup le prisonnier avant qu'il ne meure. Or, cela est inhumain, qui est une violation du 8e amendement, qui prend offense à tout ce qui est cruel comme peine. Or, les injections qui durent, les médicaments qui durent, qui vont faire torturer le prisonnier avant qu'il ne ferme les yeux, sont considérés comme cruels en violation du 8e amendement de la Constitution. Ce qui fait que pendant les 17 années, il y avait un important contentieux là-dessus, y compris même l'exécution qui a eu lieu ce matin à 8h07, celle de M. Lee, où la partie défenderesse, ou bien la défense, estimait que le médicament qui devait être utilisé pour l'injection posait un problème. Et ils ont demandé à la Cour suprême de mettre l'exécution en attente, en espérant qu'on ait un autre contentieux là-dessus pour déterminer si oui ou non le médicament en question pourrait être moins, létal, ou bien pourrait poser moins de peine pour le prisonnier.
Sur les questions de la peine de mort, hein, on se heurte en justice hein, à ces fameuses preuves de culpabilité. Et l'on sait que justement que dans votre État, le Maryland, avant que la peine de mort soit abolie, il fallait avoir des preuves d'ADN, notamment des aveux enregistrés en lien avec la victime. Est-ce que la question des preuves de culpabilité est vraiment importante pour ceux qui veulent argumenter contre la peine de mort ?
Je vais commencer par l'exécution du dernier lit qui a eu lieu ce matin. Ses dernières paroles étaient « J'ai été une mauvaise personne toute ma vie, mais je peux vous garantir que je n'ai pas fait ce dont vous me reprochez, je n'ai pas tué. » Ça, ce sont ses dernières paroles dont, au mot jusqu'à ce qu'il rende l'âme, il proclamait son innocence. Mais malheureusement, le système judiciaire américain fait tel que la Cour suprême n'est pas là pour juger les faits, c'est un tribunal de droit pour juger la légalité des décisions prises par les tribunaux de fait. Des droits, des tribunaux qui examinent les questions de preuve. Et ça va nous ramener au niveau du procès initial de la partie. Est-ce que toutes les preuves avaient été présentées pour que le prévenu soit reconnu coupable? Donc, pour moi, je pense que la question des preuves, c'est une simple question de procédure qui doit être réglée au niveau du procès. Et je pense que lorsqu'on arrive à la Cour suprême, c'est simplement parce qu'il y a eu soit un vice de procédure, soit alors il y a eu des questions, des preuves qui n'ont pas été adressées à suffisance pendant le procès. Et je pense que c'est comme ça que le dossier de M. Danieli est arrivé à la Cour suprême.